BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Antoine Larigaudry.
C'est BFM Bourse qui commence jusqu'à 18h. Vous êtes connectés en direct live avec les marchés, avec Wall Street bien sûr, qui vient d'ouvrir. Wall Street qui ouvre en hausse, plus 0,14% pour le Nasdaq. On est à 26 953 points, plus 0,13% pour le Dow Jones, à 50 720 points. Le S&P 500, plus 0,17%, 7 576 points. Du côté des marchés européens, ça se passe bien aussi, et plus 0,38% au compteur pour un CAC 40 qui gagne 8 219 points. La semaine précédente, on avait gagné 2% déjà, et on s'achemine sans doute vers une nouvelle semaine très positive au cours de laquelle on devrait a priori gagner pas loin de 2% aussi. On va voir ça. Pour l'instant, on rejoint notre spécialiste des marchés américains, John Plassard, Cité Gestion. Bonjour John.
Bonjour Antoine.
Donc, des marchés un petit peu mieux orientés, on voit que du côté des taux, ça reste calme, que du pétrole, ça reste à peu près calme aussi. On a un optimisme un petit peu affiché à nouveau du côté de la géopolitique et du côté du dossier de la résolution du conflit iranien. Qu'est-ce qu'il faut en penser? On a l'impression qu'il y a un retournement de situation par jour. Bon, là, les choses semblent quand même un petit peu calées pour un apaisement général, on va dire.
Je dirais qu'il y a plusieurs constats qui se font, parce qu'évidemment, il y a une lassitude, d'une certaine manière, une lassitude des marchés. Et on voit que les marchés croient plus vraiment aux gros titres, mais ils attendent des actes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, bien les marchés américains montent un peu, mais ce n'est pas la résolution. Vous savez qu'il y a un accord provisoire qui pourrait être signé entre les États-Unis et l'Iran, mais on attend la signature de Donald Trump potentiellement dimanche. Le deuxième constat que l'on fait de plus en plus, c'est qu'en fait, le détroit d'Hormuz, ça reste l'arme économique la plus puissante de l'Iran, qu'on le veuille ou non, et c'est là-dessus qu'ils vont à chaque fois être intransigeants. Et on sait que les négociations avancent, mais les sujets, notamment sur ce fameux détroit d'Hormuz, restent ouverts. Il y a aussi la question de l'enrichissement de l'uranium, il y a aussi la question du nucléaire militaire. Et puis, le quatrième constat, je dirais, c'est que malgré toutes ces interrogations, ces allers-retours, il faut quand même noter que le prix du baril de pétrole a baissé. Il n'y a pas très longtemps de ça, on était à 126 dollars le brut il y a un mois, et puis là, on est un peu plus de 90 dollars. Donc, on a quand même baissé depuis le sommet de la crise. Donc, on est évidemment, si je peux résumer, probablement entré dans une nouvelle phase du conflit. C'est pas de savoir si Washington et Téhéran se parlent, parce qu'ils se parlent directement, voire indirectement, mais qui va faire les concessions nécessaires, il y aura des concessions des deux côtés, pour transformer cette trêve très très fragile qu'on a dans un véritable accord de paix. Et ça, c'est vraiment la question qui va demeurer ces prochaines semaines, voire ces prochains mois, on l'espère pas, mais voire potentiellement ces prochains mois.
Bon, on va suivre ça, évidemment, puis ça risque encore de bouger ce week-end. Donc, il risque d'y avoir du nouveau. Bon, on va passer à un énorme chapitre tech. Vous savez, vendredi, c'est le jour de Tech Stocks, en plus, dans BFM Bourse. On a pris de l'avance quand même avec la semaine qui vient de s'écouler, où il y a eu énormément d'actualités du côté des semi-conducteurs, du côté de l'intelligence artificielle, du côté du spatial. Alors, ça continue aujourd'hui. On va parler du marché des pré-IPO, comme on dit, et il y a l'éléphant dans la pièce, il y a SpaceX, la galaxie Elon Musk. Figurez-vous qu'il abaisse ses prévisions de valorisation pour son entrée en bourse, Elon Musk. Comment se fait-il?
C'est assez surprenant, je dirais d'abord, parce que on sait de quoi Elon Musk est capable, que cette valorisation finale de 2000 milliards de dollars à l'entrée en bourse, on parle pas dans 10 ans, dans 2 ans, mais à l'entrée en bourse, c'était quelque chose qui reflétait un petit peu l'homme. Là, effectivement, vous l'avez dit, Elon Musk, qu'on soit plus proche des 1800 milliards de dollars que des 2000. Alors, c'est pas réellement un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de réalisme. Enfin, il faut savoir qu'il vaut mieux élargir la demande, maximiser les chances de succès de l'introduction en bourse. Et puis, vous savez, il y a aussi une chose, on compte aussi, on regarde les chiffres en définitive. On sait que le chiffre d'affaires l'année passée de SpaceX était d'environ 19 milliards de dollars, mais SpaceX a affiché une perte de 5 milliards de dollars. Ça, c'est à cause des investissements dans Starlink, l'intelligence artificielle et XAI. Et on sait historiquement que Wall Street préfère une introduction en bourse qui surprend positivement avec une valorisation légèrement plus prudente qui permet de laisser un potentiel de hausse après l'introduction. Parce que on a vu des introductions en bourse où les valorisations étaient beaucoup trop élevées et le jour de l'introduction en bourse, eh bien, l'action faisait moins 10, moins 20, voire moins 50%. Évidemment, ce qu'on veut éviter ici. Et effectivement, c'est pas pour ça que la valorisation de l'action ne sera pas plus élevée dans quelques années, dans quelques mois.
C'est amusant parce qu'on voit que Elon Musk, qui est tout le temps hors cadre et tout le temps off the meters, là, est pris à la gorge par des préoccupations simples et terre à terre, c'est trouver le bon pricing pour s'introduire en bourse. Et ça, en plus, quand on a un mastodonte comme ça qui va pénétrer le marché, il faut y être attentif. On va passer au cador de l'intelligence artificielle. Anthropic vient de... C'est l'actu chaude. Hein. Ils viennent de lever un nouveau tour de table. Et désormais, on approche des 1000 milliards de dollars. On est maintenant au-dessus d'OpenAI. Mais je crois me souvenir qu'il y a encore quelques semaines, Anthropic s'était chiffré à 1400 milliards. Donc là aussi, d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a une certaine forme de prudence, John.
Oui, une prudence. Alors, vous avez tout à fait raison, c'était valorisé au-dessus des 1000 milliards de dollars. Aujourd'hui, on parle de plutôt de 965 milliards de dollars. Mais ce que je dirais, c'est la tendance qui a un petit peu changé. Parce que OpenAI, qui est le concurrent direct d'une certaine manière d'Anthropic et qui va aussi s'introduire en bourse, eh bien, a toujours été valorisé, dans la théorie toujours, au-dessus d'Anthropic. Et là, on voit que c'est le contraire. Anthropic vient de repasser dessus. Et ce qui est intéressant, on en parlait juste avant avec SpaceX, c'est que on a l'impression que les investisseurs achètent avant tout une trajectoire de croissance exceptionnelle parce que Anthropic prévoit plus de 10 milliards de revenus trimestriels et un rythme annualisé de plus de 50 milliards de dollars dès le mois prochain. Ça veut dire très concrètement qu'aujourd'hui, les investisseurs, et ça a changé depuis 6 mois, les investisseurs veulent avoir un retour sur investissement. Ouais. C'est tout. Et effectivement, on est là où on se dit, mais alors, est-ce qu'il vaut mieux pas aller vers Anthropic? Pas parce que Anthropic permet le codage, etc., sans aller dans les détails, mais parce qu'Anthropic rapporte de l'argent et aussi repose sur des actionnaires de référence, parce qu'il faut rappeler que dans les actionnaires d'Anthropic, on a Google, on a Amazon, on a Sequoia, on a Altimeter et on a Dragoneer qui ont tous participé massivement au funding, au tour de table, comme vous disiez, Antoine, de Anthropic. Donc, c'est très intéressant. On est en train de voir un changement de paradigme qui s'opère pour SpaceX, pour Anthropic et potentiellement pour toutes les autres prochaines introductions en bourse.
Bon, c'est très amusant parce que c'est même pas encore l'introduction en bourse qu'on est sur des débats au jour le jour sur la valorisation. C'est quand même dingue. On va rester dans le domaine de la tech avec les résultats de Dell. Ils sont bons, les perspectives sont rehaussées. Le titre gagne 32%. Est-ce bien raisonnable, John?
Alors, raisonnable, on voyait même, juste avant l'ouverture, on était à près de 40% de hausse, 32%, non, c'est délirant, surtout pour une entreprise comme Dell. On disait que le hardware, à un moment, était fini. Mais si on regarde les résultats qui ont été publiés, sont difficiles à ignorer, parce qu'on a quand même une croissance de près de 90% du chiffre d'affaires trimestriel et des revenus largement supérieurs aux attentes, qui montrent que la demande liée à l'intelligence artificielle, elle elle est bien réelle et c'est pas simplement spéculatif. Ça nous montre aussi, ces résultats de Dell, que la révolution de l'intelligence artificielle est rentrée dans ce qu'on appelle sa phase industrielle. Avant, c'était une idée de l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, et on en a parlé à plusieurs fois, eh bien, on achète les pelles et les pioches. Vous savez, lorsqu'on va chercher de l'or dans les mines, c'est ceux qui vendent les pelles et les pioches, c'est-à-dire ceux qui vendent le hardware Dell qui rapporte de l'argent. Et donc, on est aussi là, dans ce cycle de l'intelligence artificielle ou dans cette révolution, aussi au moment où on réfléchit un peu différemment. Le gagnant, c'est pas simplement Nvidia, mais tout l'écosystème avec évidemment aussi l'énergie, on n'en parle pas aujourd'hui, mais l'énergie, le hardware. Et donc, c'est assez intéressant parce que oui, c'est délirant, soyons honnêtes, Antoine, cette progression aujourd'hui de Dell, mais ça fait du sens dans cet écosystème, qu'on le veuille ou non.
Bon, on va essayer de se faire à cette idée, John. On va terminer par alors la bonne vieille économie américaine, les vendeurs de fringues. Gap et American Eagle perdent chacun quasiment 15% là où, à l'ouverture de Wall Street. On a vu pourtant, et à travers les résultats d'autres entreprises, à travers même les chiffres macro, que la conso américaine tenait encore. Mais ouais, chez Gap et chez American Eagle, ça ne marche pas. Alors, c'est une question de mode ou c'est une question de tendance plus profonde ?
Non, c'est une tendance plus profonde, effectivement. On voit que le consommateur américain, il commence à arbitrer ses dépenses. Vous savez que même quand l'habillement peine à atteindre ses objectifs, bah, ça montre que les ménages privilégient des dépenses essentielles au détriment des achats discrétionnaires. On sait que l'inflation, on a parlé tellement de fois de ces prix à la pompe aux États-Unis qui sont au-delà des standards historiques. On a vu aussi la confiance des consommateurs américains qui commence à laisser des traces. Mais il y a aussi un constat qui est très important, c'est que le message qui nous est donné aujourd'hui d'American Eagle et de Gap, c'est le même que nous dit Walmart, qui nous dit effectivement les clients qui ont des salaires tout à fait normaux, eh bien, ils vont vers des produits moins chers, vers des promotions, et on a toujours eh bien ceux qui gagnent plus d'argent, vous savez, la fameuse économie en K, bah, qui dépense. Et quand elle dépense, eh bien, on regarde des fabricants d'habits comme Abercrombie & Fitch, hein, on les avait oubliés, c'est pas donné lorsque vous allez chez Abercrombie & Fitch, eh bien, le titre, en début de semaine, a bien fonctionné. Donc, on voit que les marques qui sont dans le milieu de gamme, entre guillemets, eh bien, elles souffrent énormément, et celles qui sont au-dessus ou en dessous, eh bien, c'est celles qui gagnent des parts de marché.
On en revient aux fondamentaux, hein, finalement. C'est aussi bête que ça. Hein. Merci infiniment, John Plassard, Cité Gestion, d'avoir commenté cette ouverture en direct de Wall Street. Plus 0,48% pour le Nasdaq, plus 0,4% pour le Dow Jones et plus 0,36% pour le S&P 500. Bon week-end, John. Un coup d'œil sur Gap, moins 15,8% et American Eagle Outfitters, moins 14,7%. On revient à nos moutons, à nos marchés, avec Jean-François Bay de Bourse First.
Bonjour.
C'est la Bourse Se Cache et vous êtes arrivé avec un constat absolument infrangible et que vous assumez. Lequel est-il ?
Les marchés passent à travers les grandes crises, guerre, hausse des taux, pétrole, inflation, ralentissement de la croissance. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un super cycle sur l'intelligence artificielle.
Wow. Vous appelez ça même le super cycle ChatGPT,
ouais,
qui date de
2022. Exactement, donc c'est intéressant de revenir au moment de ChatGPT.
Mais oui, parce que c'est valable pour les actions. Figurez-vous que c'est valable aussi pour l'or.
C'est valable.
Le fameux bond de l'or a commencé avec l'arrivée de ChatGPT.
Exactement, donc c'est intéressant, on est un peu la tête dans le guidon sur les marchés au jour le jour ou au mois le mois. Et c'est intéressant de voir que finalement, le moment qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire, je disais, depuis le début de l'année, pétrole à plus 50%, les taux qui ont monté, on a peur de l'inflation, on a encore les chiffres d'inflation en France à 2,4% et aux États-Unis on est plutôt à 4%. La croissance, on annonce une croissance de ralentissement et une guerre au Moyen-Orient qui perdure. Et on se dit, c'est quand même bizarre, les marchés actions ont l'air d'être un peu en lévitation et tiennent. Et ça nous rappelle, en fait, Antoine, ce qu'on avait connu en 2022-2023, en se disant, on avait eu aussi à l'époque les banques centrales qui avaient beaucoup augmenté les taux, on parlait d'inflation, on parlait de ralentissement de la croissance, de stagflation. Et malgré tout, les marchés actions avaient très bien tenu sur la période et en 2023 et après. Et en fait, je me suis rappelé que novembre 2022, c'était le lancement de ChatGPT. Et donc, il y avait eu un peu cet effet lévitation grâce au lancement de ChatGPT, des milliards d'utilisateurs en quelques secondes. Enfin, c'était magique. Et après, on avait parlé d'effet de mode, de bulle, en disant, bon, bah non, le soufflet va retomber. Et puis finalement, le soufflet n'est pas retombé. On est toujours dans ce moment ChatGPT. On est toujours dans ce moment, j'allais dire, anthropique, puisque ça a pris le relais. C'est plus B2B, c'est plus entreprise. Anthropique, c'est un financement, là encore, aussi par Microsoft, aidé par Microsoft en 2025 et qui se poursuit en 2026. Ils viennent de lancer leur nouvelle version. Et quelque part, en fait, ça vient soutenir, et on le voit à travers à la fois les performances des marchés actions, je disais, qui tiennent bien normalement. Une hausse des taux, une hausse de l'inflation aurait dû entraîner un crack fort, ou une guerre. À l'époque, c'était la guerre en Ukraine. Mmh. On a particulièrement les États-Unis et l'Asie du Sud-Est, Corée, Taïwan, Japon, qui performent de manière incroyable, versus l'Europe. On a ce marché en cas, si vous n'êtes pas dans l'intelligence artificielle, vous êtes nulle part. On a un effet un peu trou noir qui agglomère en fait l'ensemble des pays ou des secteurs, un effet secteur ou sous-secteur. Hein, la performance du Nasdaq ou du secteur tech a fait pratiquement x2 sur les 3 ans qui viennent. Le CAC 40, malheureusement, je vous rappelle, Antoine, a fait 0 sur les 3 ans et a fait 0 depuis le début de l'année. Le Nasdaq vient de terminer à plus 8% sur le mois dernier. Et on a aussi, de manière tangible, les résultats, c'est-à-dire qu'on vient d'avoir des résultats d'entreprise. C'est une annonce d'une croissance des bénéfices de plus 25% sur le premier trimestre 2026 sur le S&P 500. On attendait plus 15%, donc on voit quand même que c'est tenu. Et si vous êtes en dehors de la tech, vous êtes à plus 7% de croissance des bénéfices. Donc il y a un vrai effet.
D'accord. On est d'accord. Il y a quand même quelque chose qui est étonnant avec ce super cycle, c'est qu'au départ, on évolue sur des dynamiques fabuleuses parce qu'on espère des gains de productivité, des investissements qui vont être fructueux et bénéficiaires très très vite. Et on a l'impression que plus on avance, moins on en a de la visibilité. C'est-à-dire que ces fameux gains de productivité sonnants et trébuchants, on les voit toujours pas vraiment. Enfin, on n'en a pas une idée précise. Et on a l'impression qu'on avance de manière très performante et très très vite et très rentable.
Et très rentable.
Mais vers où, on ne sait toujours pas.
Alors, les éléments proches de l'intelligence artificielle, si on prend OpenAI et Anthropic, c'est quand même 55 milliards de dollars de revenus annualisés cette année. C'est quand même énorme. Je rappelle que Anthropic paye 1,25 milliard de dollars par mois à SpaceX pour louer Colossus 1. Donc, c'est-à-dire qu'on a des investissements massifs et qui sont rentables. Je le disais, 784 milliards de dollars investis par les 7 magnifiques. Cette année, c'est 2 fois plus que 2025. Donc, on a effectivement une demande forte qui va se concentrer sur les infrastructures, les télécoms, les puces, les logiciels, l'énergie, puisque je rappelle que Microsoft a réouvert Three Mile Island, donc l'usine nucléaire, donc a réveillé, donc ça réveille l'ensemble du secteur énergétique et nucléaire en particulier. Donc quand vous êtes très proche, j'allais dire, du trou noir, vous avez cette rentabilité, cette croissance, vous bénéficiez de cette croissance, donc des investissements, je le disais, qui sont énormes. On a multiplié par 3 les investissements dans les data centers en 3 ans, donc c'est des vrais milliards de dollars, c'est de vrai argent. À côté de ça, effectivement, la partie utilisateur d'entreprise, si vous n'êtes pas proche de l'intelligence artificielle, vous ne fabriquez pas d'infrastructures de puces, de logiciels ou d'énergie, et que vous êtes bêtement dans le luxe, dans l'habillement ou dans l'automobile, vous n'êtes que utilisateur. Alors sans doute que vous allez avoir un gain de productivité à court terme, c'est ce que disait Mistral, le PDG à l'Assemblée nationale et au Sénat quand il était auditionné, en disant disant il y a un gain de productivité énorme tout de suite en ressources humaines pour l'utilisation en fait de cette facilité. Donc l'ensemble des cols blancs sont remplacés en quelque sorte, et donc les entreprises à court terme se disent ah c'est super, ça va me faire, ça va améliorer les marges. Et tout de suite, Antoine, vous me dites, oui, mais si c'est un peu de licenciement, enfin l'impact sur le chômage, et on le voit sur l'emploi américain, n'est pas complètement neutre.
Être évident, pourtant. Ouais, parce que sinon, les conséquences seraient bien plus désastreuses.
Oui, mais vous avez raison. On a encore un petit peu beaucoup de questions, beaucoup de points d'interrogation sur les effets, et pour des entreprises traditionnelles qui ne sont pas au cœur de l'intelligence artificielle.
Exactement, et c'est ce que j'allais vous dire. C'est quand même quelque chose de fichtrement inquiétant. Vous me parlez de bénéfices qui se constituent à la frontière du trou noir.
C'est ça.
Le trou noir, nécessairement, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est un peu comme si vous me disiez, on est en train de construire, mais la plus belle bagnole du monde, on ne sait même pas où on va aller avec.
Oui, alors on sait où on va aller, mais on ne connaît pas encore l'ensemble des conséquences. Oui. Antoine, le secteur de la tech aux États-Unis, c'est aujourd'hui, les 7 magnifiques, c'est pratiquement 40% des indices S&P 500. Donc on a cet effet tech qui va perdurer, quoi qu'on en dise, et qui a des impacts sur les marchés, qui a des impacts sur les IPO à venir, hein, parce qu'on a des milliards de dollars qui vont être déversés sur ces entreprises OpenAI. Entreprise vient d'une valorisation supérieure à 1000 milliards. 1000 milliards de dollars, c'est un peu le cut, la limite. Samsung, TSMC, SK, voilà, en Asie. Et vous allez me dire tout de suite, bon, super, ça fait des grandes IPO en Asie ou aux États-Unis, mais quid de l'Europe, donc un peu d'Europe bashing aussi au passage, en se disant mais que fait l'Europe, est-ce qu'il y a des entreprises qui vont profiter de ce super cycle?
Alors je vais vous répondre pas du tout, parce qu'on a quand même passé la semaine à dire ouais non mais ils sont bien gentils, sans ASML tout ça, ça n'existe pas. Donc oui, on a des atouts, certes on n'a pas des milliers de milliards de capis boursières, mais on est indispensable quand même.
Donc il y a quand même des acteurs. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai retenu 3-4 fonds, si ça vous intéresse d'avoir des idées d'investissement pour profiter de ce super cycle. J'ai noté iShares AI Innovation, qui est un ETF géré par iShares BlackRock, qui fait 45% depuis le début de l'année. Et j'ai noté aussi un petit fonds Itavera, Artificial Intelligence, qui est géré par Rolando Grandi, Cocorico, un Français.
Qu'on reçoit de temps en temps dans TechStock, c'est génial.
Et qui est génial, et qui fait plus 37% depuis le début de l'année. J'ai noté Carmignac Asia Discovery, un gérant français, là encore, qui fait 44% depuis le début de l'année. Si vous voulez vous orienter vers l'Asie. Et j'ai noté Spider MSCI Europe Tech, un fonds européen, juste goût, un ETF cette fois-ci, qui fait 41% depuis le début de l'année, et on retrouve du ASML, du SAP, du ST Microelectronics, donc il y a quand même des fleurons européens qui s'en sortent bien et qui profitent.
Et qui ont très très bien marché depuis le début de l'année, et qui continuent de signer de très belles performances. Jean-François Abbé, Boursofer.
Merci Antoine.
Merci infiniment d'avoir été avec nous. On passe à Culture ETF.
BFM Bourse, Culture ETF.
Les meilleurs plans ETF. Optimiser ses chances en bourse grâce à la gestion passive. Alors, on va rester dans le phénomène de super concentration, hein, finalement. L'indice World est concentré à plus de 70% sur les États-Unis. Beaucoup d'investisseurs cherchent aujourd'hui à diversifier leur moteur de performance. Et comment on peut sortir de cette hégémonie? Surtout avec des instruments passifs qui ne font que répliquer des indices qui sont déjà super concentrés. Jérémy Toubiana, responsable du développement ETF chez BNP Paribas Asset Management, nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Alors, c'est la fin du mois de mai. On assiste à ce que certains appellent une forme de rotation historique. Vous confirmez que les flux vers l'Europe ou les émergences sont accélérés face à une collecte américaine qui commence à se calmer?
Alors, c'est vrai que depuis le début de l'année, à la différence des années précédentes, on a vu principalement des flux, alors évidemment sur les actions mondiales, mais ensuite sur les actions émergentes et européennes. Habituellement, donc les années précédentes, on a surtout vu des flux côté actions sur les actions mondes et les actions américaines. Donc effectivement, depuis le début de l'année, on a vu un intérêt moindre des investisseurs pour les actions américaines, même si depuis quelques semaines, quelques jours, on voit les investisseurs revenir sur les actions américaines, notamment au travers de la tech et donc des indices comme les indices Nasdaq, par exemple. Est-ce que ça va perdurer?
C'est la question qu'on peut se poser, parce qu'une fois qu'on USA free, qu'est-ce qui reste?
Alors, il reste de l'Europe, il reste du Japon, il reste de la Grande-Bretagne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, face à l'innovation du marché des ETF et au besoin des investisseurs d'avoir peut-être plus de granularité dans la recherche de performance...
C'est le mot-clé du moment. Hein.
Exactement. On le voit avec le développement des ETF thématiques, des ETF actifs, par exemple. On voit les investisseurs chercher beaucoup plus de granularité dans leur choix d'exposition. Et finalement, on avait beaucoup d'investisseurs qui investissaient, notamment des investisseurs retail ou même des professionnels qui avaient dans leur allocation un indice World et un indice MSCI USA ou MSCI ou S&P 500. Et finalement, vous le disiez, les États-Unis dans un indice World, c'est presque plus de 70%. Et quand on combine ça avec un indice américain, S&P 500 ou MSCI USA, notre exposition sur le marché américain, elle est quand même assez forte. Mmh. Et donc aujourd'hui, on a des indices et donc des ETF qui se sont développés, qui permettent par exemple d'investir sur le MSCI World en excluant la zone américaine. Et donc qui permet aux investisseurs de vraiment gérer leur exposition à la zone États-Unis avec le poids qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent mettre 70%? Est-ce qu'ils veulent mettre 50%? Est-ce qu'ils veulent mettre 90%? Et donc ça, c'est ce que l'on voit beaucoup se développer ces dernières semaines.
Alors, cela dit, le problème, c'est que si on s'auto-administre cette cure sans États-Unis, bah oui, mais le fait qu'il y ait cette surconcentration, excite les bénéfices potentiels autour des Nvidia, de la tech US, etc. Alors bon, il y aura aussi pas mal de Corée du Sud, de Japon, où il y a des gros acteurs, mais on va volontairement se mettre de côté des sept magnifiques.
On pourra le faire, mais dans une exposition en direct. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à faire du World, c'est peut-être trop simple, trop basique. Aujourd'hui, les investisseurs veulent vraiment pouvoir gérer leur exposition au marché américain. Mmh. On a vu se développer également, par exemple, des indices Emerging Market ex-China, donc qui excluait la Chine, par exemple. Okay. Donc là aussi, est-ce que j'ai une vraie conviction sur l'indice chinois? Est-ce que je veux avoir une surexposition sur l'indice chinois quand j'investis sur les marchés émergents? Ou est-ce que je veux avoir une plus petite exposition? Donc voilà, dès lors qu'on parle de trop grosse concentration, le fait d'avoir la possibilité d'exclure une zone ou un pays, a de l'intérêt pour les investisseurs qui, encore une fois, veulent vraiment gérer leur allocation top-down, leur allocation d'actifs, et donc de bien gérer la pondération par zone ou par région.
Et oui, finalement, la gestion passive, elle n'est pas si passive que ça.
Elle est clairement pas si passive que ça. Déjà, dès lors que je m'amuse souvent à dire que dès lors qu'on choisit deux ETF, en réalité, on fait de la gestion active.
C'est ça, c'est exactement
ça. Il n'y a pas de débat entre gestion active et gestion passive. Dès lors qu'on choisit deux ETF, ou même si on n'en choisit qu'un, c'est un choix actif que de choisir un ETF. Et donc là, effectivement, quand on veut construire son allocation, on fait un choix actif. Et donc, par exemple, dans l'indice World, MSCI World ex-USA, on a 30% d'Europe. Vous parliez de ASML, effectivement, ça représente la plus grosse pondération de cet indice-là avec 2,5% de pondération. On a 20% de Japon, on a 12% de Grande-Bretagne et pareil pour le Canada. Et donc, on a effectivement cette capacité de mieux gérer son exposition, être moins exposé à l'Europe et peut-être moins concentré aux GAFAM que l'on peut jouer en direct avec des ETF tech ou avec des ETF globaux. Et d'ailleurs, quand on parle aussi d'allocation sectorielle, on sait que sur un indice World, la partie tech représente une grosse part de l'allocation. Là, sur l'indice World ex-USA, la tech ne représente que 10% et les principaux secteurs, c'est la finance et l'industrie.
Qui marche pas mal aussi. Merci Jérémy Tubiana, BNP Paribas Asset Management. Pour ce point sur les ETF, vous pouvez le réécouter en podcast et en replay tout le week-end. Évidemment, une mine d'informations, ainsi que Culture Bourse toute la semaine. Restez avec nous dans un instant. On sera avec Thierry Gauthier de GSD Gestion pour parler des valeurs du jour. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.